shiur dédié pour la réfrochema de Esther Bat Simcha et de ma grand-mère Léa Bat Tamar. Zechona Levracha. Alors la question de Jonathan, comment fait-on pour avoir un gilou, c'est-à-dire un dévoilement d'Hachem dans ce monde? Tu me dis, il y a des gens qui, on entend des gens qui ont des dévoilements, quoi, ils ont des lumières, des quoi, des voix.
Des lumières, des voix, même ils ont fait des rêves,
ouais.
ils sont montés.
Il y a des cas, beaucoup de cas qui sont des cas, qui se soignent psychiatriquement. Beaucoup. Il faut faire attention. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas les cas qui se soignent psychiatriquement, et ça arrive, il faut savoir que ce n'est pas forcément un bienfait. C'est-à-dire, c'est bien, et nous tous on aimerait avoir cela, mais il faut comprendre que c'est contraire à ce que Hachem y veut. Hachem a créé un monde, le monde en hébreu se dit Olam. Olam vient de racine Elem, Naelam, signifie caché. C'est quoi le monde? Le monde, c'est quoi la définition du monde? C'est une bulle qui fait quand même 15 milliards d'années-lumière, d'accord? Où Hachem n'est pas visible. Il est là, mais il n'est pas visible. Je peux dire, Hachem n'existe pas, rien ne se passe. Au même moment, il me donne la vie, il me donne l'énergie, il me donne tout. Il est source de la réalité. Et je dis non. C'est-à-dire que je suis capable de dire le plus grand des mensonges. Le monde est appelé aussi Alma Leshikra, monde du mensonge, parce que on n'y voit pas la vraie réalité, qui est qu'Hachem est plus que tout puissant, il est tout. Enfin, plus que cela, il est la source de tout. Et sans son flux continu, tout disparaîtrait à la seconde. Hachem a voulu cela pour qu'on ait le libre arbitre. Parce que si je vois de façon ostensible, claire, qu'Hachem est la source de tout, comment pourrais-je bouger le petit doigt différemment que sa volonté? Impossible. Pourquoi Hachem a-t-il fait ce grand mensonge? Et tu vois bien que l'humanité, dans sa grande majorité, tombe dans le panneau. Pas pour longtemps encore. Parce qu'il a voulu laisser le libre arbitre à l'homme. Maintenant, s'il va, et tout d'un coup il fait « Coucou, je suis là », c'est contraire à son but qui est me donner le libre arbitre. C'est en fait réduire de beaucoup mon libre arbitre. Il y a des gens qui, sans cela, ne pourront pas choisir le bien. Pour raison X, Y, Z, Hachem décide que ces personnes-là doivent être sauvées coûte que coûte, parce qu'elles ont un mérite spécial, un mérite des ancêtres, ou je ne sais pas, et on les sauve malgré elles. Comment? On leur fait un dévoilement. Mais c'est certain que c'est des gens petits. Les gens grands, c'est ceux à qui on va faire travailler beaucoup. Donc surtout pas de dévoilement. Bosse! Mais je te vois pas. Je veux que tu bosses sans me voir. C'est beaucoup plus méritant de travailler comme ça, de servir Hachem comme ça, que lorsqu'on le voit. Quel mérite à quelqu'un qui a un dévoilement d'Hachem clair? Oui.
Ça nous enlève pas, je veux dire.
Bien sûr, ça nous enlève. Je ne sais pas comment calculer ça en quantité, mais c'est certain que quelqu'un qui a bénéficié, je dis bien bénéficié, parce que quelque part, grâce à cela, il va être dans le bien. Quand il va bénéficier d'un dévoilement d'Hachem, le bien qu'il va faire n'a pas beaucoup de valeur. Il a une petite valeur, petite. Égal au choix qu'il avait maintenant de faire le mal. Quel choix? Après que tu as un dévoilement d'Hachem, tu as encore le choix de faire le mal? Petit, il faut vraiment être un sacré crétin pour aller faire le mal après cela.
Même on fait juste après avoir reçu la Torah, quand même.
Hein?
Même on fait juste après avoir reçu la Torah.
C'est vrai. Pourquoi? Comment ça se fait que juste après le don de la Torah, 40 jours, il fasse le veau d'or? Parce que Hachem a voulu leur donner à nouveau le libre arbitre total. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ayant fait un dévoilement d'Hachem très très grand, pour rétablir le libre arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une pulsion de Serrara presque aussi grande. Et il tombe dans le panneau. Ça se peut. Ça se peut qu'il y a des gens à qui Hachem fera un dévoilement et après il y aura un Yetzirara très grand qui va venir. Mais d'habitude, ce n'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est que si Hachem fait un dévoilement, se dévoile à quelqu'un en rêve ou quelque chose comme ça, c'est qu'il veut, malgré lui, le tirer hors du trou. Donc s'il lui donne maintenant un grand Yetzirara qui le retourne dans le trou, à quoi ça sert tout ça? Ni fait dévoilement, ni fait grand, etc. Au Mont Sinaï, il avait besoin qu'une fois pour toutes, le peuple d'Israël, l'humanité comprenne que Hachem existe. Il fallait un dévoilement dans l'histoire. il y en aura deux. Un, il y a 3400 ans, un dans 3400 minutes. Ou heures, peut-être grand maximum. D'accord,
Le Ruach HaKodesh, alors c'est pas un cadeau, alors.
Une fois, quoi, quelqu'un.
Alors, il a mérité de l'avoir, mais une fois qu'il l'a, après, quand même, c'est...
Il a mérité.
D'accord, il a mérité. Okay, mais après, je veux dire, il y a encore peut-être de la marge. Quoi. Plus moins il va avoir de contact clair avec Hachem, plus ça va être méritoire. Ou pas.
Il y a un Tanna Milahu qui dit que Elohim Navi, il conjure le ciel et la terre et dit que le Ruach HaKodesh se pose sur quelqu'un qu'en fonction de ses actions. Donc quelqu'un qui a le Ruach HaKodesh, c'est certain qu'il a beaucoup bossé dans le noir pour y accéder. Ouais. Une fois qu'il a accédé, c'est-à-dire qu'il a un niveau où maintenant il n'a plus besoin des batailles, de la marge, le libre choix, c'est libre choix, chacun a libre choix. D'accord ? Le chef de la mafia a aussi un libre choix. Il peut maintenant tuer 15 personnes, ou il jette une grenade et tout le monde saute, même les innocents, ou il paye maintenant 1000 dollars, c'est casse-pied, pour prendre quelqu'un qui va tuer que le type qui veut tuer. Il y a un libre choix, ou tuer 15, ou tuer pour 1000 dollars. Bon, c'est un choix maintenant. Lui, son choix, sa marge de choix, elle est à ce niveau-là. Quelqu'un qui est très 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 haut, qui a déjà Ruach HaKodesh, il n'a plus maintenant le libre choix, les choix que nous avons, nous. Penser à une fille, Chas Shalom, il n'est pas du tout là-dedans, d'accord. Je ne sais pas, faire une prière sans kavana, c'est pas du tout. Lui, il est beaucoup plus haut. C'est à quel point il est vraiment, il est pas une seconde, il ne pense pas à Hachem, à quel point il se sent très très humble, à quel point il prie avec amour sincère pour tout Am Israël. C'est ça les épreuves qu'il a. Lui, au niveau de choix qu'il se trouve, il n'y a aucun problème qu'il ait Ruach HaKodesh, ça ne change rien. Il sait parfaitement bien, il voit Hachem. Néanmoins, la marge de choix où il se trouve, lui, elle est... C'est ça, sur ça, il sera jugé. Comme on voit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y a une page entière dans Traité Souka qui parle de qui il était. Le grand marteau, la torche de lumière, il connaît. Bon, il raconte là-bas. Et le jour de sa mort, il dit, il se met à pleurer. Pourquoi ? Il y a deux voix devant moi. Une qui va au paradis, une qui va en enfer. Et je ne sais pas laquelle je vais prendre. Après qu'on l'ait fait tellement de... Que lui, par rapport à la grandeur des chamas qu'il a reçue, par rapport au niveau où il est, il a une marge de choix, ou aussi il a pu rater. Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est le grand rabbin d'Israël. Lui, maintenant, se trouve le jour de sa mort. Il a tout ce que tu veux comme titre, d'accord, comme médaille. Il dit, ouais, non, mais avec tout ça, peut-être j'aurais dû faire plus. On ne sait pas qui on est. Vous connaissez l'histoire de Natif de Vologine. Je vais raconter pour ceux qui ne la connaissent pas. Le Natif de Vologine, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda de Vologine. C'est un très grand rabbin qui a dirigé la yeshiva de Vologine. Il s'est marié avec la fille du fils de Rabbi Chaim de Vologine. Rabbi Chaim de Vologine était le élève du Gaon de Vilna, celui qui a fondé la yeshiva de Vologine. Ce Rabbi Chaim de Vologine a eu ainsi un fils, ce fils avec une fille, cette fille s'est mariée au Natif. Natif, c'est Nathan Naftali Tzvi Yehuda, Berlin. Berlin, son nom de famille, Natif. Natif, c'est les Rachetevot. Les Rachetevot, acrostiche, et un autre terme en français, initial. Et vers la fin de sa vie, il a écrit beaucoup de livres. À la fin de sa vie, il a publié un livre qui s'appelle Aemek Sheela. Aemek Sheela, c'est un Aemek Davar. Il a dit Aemek Sheela, Aemek Davar. Aemek Sheela, c'est une explication sur les Sheiltot de Rav Chaim Gaon. Sheiltot est des responsables des questions-réponses de Rav Chaim Gaon, un des Gaonim, vivait dans l'an 900 de l'ère chrétienne. Il a fait beaucoup d'explications là-dessus. Après, il a fait un commentaire sur la Torah très profond. Aemek Davar, profondeur des choses. Et quand il a publié son livre, il a fait une fête, etc. Il dit, je suis très content. Pourquoi ? Il dit, parce que, quand j'étais petit, j'étais un cancre. Tous mes grands frères, ils avaient Talmud Torah, ils étudiaient, moi j'allais au Talmud Torah, j'envoyais des taquets, bon, c'est moi qui rajoute, d'accord, l'histoire ne raconte pas cela forcément. J'étais un cancre. Et un jour, j'ai entendu... Un soir, mon père qui parle avec ma mère dans la cuisine dit, le petit Naftali Tzvi Yehuda, je ne sais pas si on le laisse au Cheder, il perd son temps, tant qu'à faire, qu'il aille travailler. Demain, je le prends chez le cordonnier, la fin de formation, il sera cordonnier. Il y a deux versions, une qu'il était là un jour chez le cordonnier, puis il a fui, il est rentré à la maison en courant, ou directement, en entendant cela, il est, il est, rentre dans la cuisine, il a dit, c'est bon, laissez-moi au cheder, je serai un bon élève. Et de ce jour-là, il a commencé à être assidu, et il a devenu un grand Talmid Chacham, le natif. Il a dit, imaginez que j'ai pas entendu la discussion entre mon père et ma mère. Même que j'ai entendu, ça m'a rien fait. J'ai dit, bon, ben, pourquoi pas, j'irai demain chez le cordonnier. Mes copains, ils vont apprendre ma vacama, moi ça me casse les pieds. Cordonnier, j'aurai de l'argent, déjà en fin de semaine, je pourrais manger des bonbons, je pourrais me donner après mes copains, etc. Et je serai un bon balbaït. Un bon balbaït, je vais faire de l'argent, je vais être un cordonnier simple, après je vais acheter une cordonnerie, après je vais acheter deux cordonneries, après je vais faire une chaîne de cordonniers, d'accord. Les cordonniers natives, voilà, avec des pubs partout, voilà. Bien sûr, je vais me marier avec une femme religieuse, comme il faut, et j'envoie mes enfants tout au cheder, au Talmud Torah, je donnerai de l'argent tzedaka comme il faut bien. Je serai un bon juif parfait. Et je fais trois prières par jour, je mange kasher, j'aide les pauvres. Je suis un juif bonne midot, moussin comme il faut, prière, étude Torah quotidienne, il n'y a pas un jour où je n'ai pas fait. Tous mes enfants sont dans la Torah. J'arrive à mes 120 ans. Agonise, je suis en Israël, quick. Bon, je monte, Olam Haba. Je me dis, bon, j'ai peut-être quelques péchés par-ci, par-là, mais on sait que à gauche, enfer, à droite, paradis. J'arrive au l'ange préposé, il dit, c'est quoi votre nom ? Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlin. À gauche. C'est quoi à gauche ? Ben, c'est l'enfer, mais revérifiez s'il vous plaît, c'est un nom pas commun, j'ai quatre noms. Natif, Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlin. C'est sûrement à droite. Je vais vérifier. Naftali, Tsiouda, Berlin, à gauche. Mais pourquoi à gauche? Je ne comprends pas. Mais presque tous les chiots de mon pays, c'est moi qui les ai financés. Mais pourquoi? Écoute, je vais regarder. Accusé d'assassinat. Assassinat. Il y a une erreur. Je ne savais pas que dans ce monde-là, il y a des erreurs aussi. Ce n'est pas possible. Même une mouche, je ne peux pas tuer une mouche. Assassinat, moi? Mais c'est une blague. Une mauvaise blague. Je ne sais pas quel sens de l'humour dans l'Olam Haba. Mais qui j'ai assassiné? Je vais voir. J'ai assassiné le Gdol Hador, le grand de la génération. Moi, le grand. J'ai tué et assassiné le grand de la génération. Vous êtes complètement cinglé. C'est complètement faux. À droite. Non, monsieur. À gauche. Mais qui j'ai assassiné? Qui j'ai assassiné? C'est pas possible. Amenez-le, ce monsieur. Du coup, on me montre. Moi. Avec une grande barbe. Et derrière, un mec d'Avar. Le livre que j'aurais pu écrire. Le Rosh Yeshiva, de la Yeshiva de Vologin, tu as assassiné. T'étais un cordonnier. T'aurais pu être le grand de la génération. Écrire 4 volumes, un mec d'Avar. Des milliers d'élèves qui sont sortis de la Yeshiva d'Europe. T'étais cordonnier. À gauche. Aïe, 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 aïe. Alors nous, on est où? On est à Rosh Hashanah, pépère, ça va? J'ai pas assassiné, j'ai pas tué. Qu'est-ce que j'ai fait? On fait un peu de chouva. Oilanu meyom adin, oilanu meyom atochecho, c'est marqué. Oi, malheur à nous du jour du jugement, du jour de la correction. On va nous dire, hein, mon petit, tiens, voilà ce qui te revient. Donc, on tombe en déprime, surtout pas. Il ne faut pas vouloir définir où on en est. Je suis dans les tzadikim, je suis à gauche, je suis à droite, je suis moitié-moitié. On ne sait pas, on ne peut pas savoir parce qu'on ne sait pas quelle est notre âme, qui on aurait pu être. On doit faire ce qui est juste et jamais se tromper. Et si on se trompe, rectifier le tir. Donc, rester en joie, mais faire attention. Faire attention parce que le Sahara, il est très très grand et veut nous faire rater. Les gens croient que le Sahara, bon, il existe, mais bon, on peut l'amadouer. C'est un assassin qui a mis un X sur notre nom. X, ça veut dire, on aura sa peau, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, sans rachamim aucun, sans aucune miséricorde, jusqu'à la fin. Le trou encore plus profond, plus profond, plus profond, il n'y a pas de fin. X, un ennemi dangereux. si on n'est pas hyper, hyper vigilant, on tombe dans le panneau. Donc, pour revenir sur le sujet, la question était...
Est-ce qu'on peut faire des... Est-ce qu'on peut faire des choses pour avoir des guilouis?
Plutôt que d'avoir un guilouis, donc un dévoilement d'Hachem dont tu parles, tel qu'un rêve ou je ne sais pas quoi, une vision ou des voix, vivre avec Hachem en le sentant, en une perception d'Hachem très puissante, c'est beaucoup plus grand, par soi-même. Ce que dit la Torah, dit que tu as une mitzvah de Yirat Hachem, de crainte d'Hachem, et celle de Ahavat Hachem, aimer Hachem. Et bien que les livres disent que d'abord il faut passer à la Yira, après arriver à la Hava, je pense que les Baal Tshuva, eux, peuvent arriver très facilement à la Hava, à l'amour de Dieu. Quand quelqu'un vit une relation d'amour avec Hachem, et ça, il faut un peu y penser. Parce que quand on n'y pense pas, c'est mort. Comme avec une femme. Quelqu'un, il vit avec sa femme. S'il ne pense pas maintenant à l'amour qu'il a pour elle, il ne fait pas attention à ça, il ne va pas cultiver, il ne va pas... Eh bien, l'amour, lentement, il baisse. C'est une chose qui se comme un charbon ardent, faut souffler dessus et il se réveille, il s'enflamme. Il donne l'amour avec Hachem. Si on y pense, si on travaille, si on cultive cela, on crée une relation d'amour avec Hachem. Ben Hachem, il est devant toi. Pas besoin ni de guilou ni rien. C'est une histoire d'amour, t'as pas besoin de ça. Au contraire, même ça te peinerait qu'Hachem ait besoin de faire un guilou. Tu le vois à chaque coin de rue, Hachem. Combien de fois on peut voir Hachem en journée que pour un petit détail, il t'a aidé? Quand tu sens Hachem, il est là, pas besoin de dévoilement de ce genre-là.
Mais quand on entend des histoires de tzadikim, d'autres, qui ont de gens lambda, qui ont un dévoilement comme ça d'Akadosh Baruch Hu, on se dit...
T'aurais voulu avoir ça?
Pas nous.
Moi, parce, je me dis, parce que t'es plus fort. Parce que t'es plus fort qu'eux.
Ah, là, nous tous, on n'a aucun d'entre nous, j'en sais rien, peut-être pas, mais on n'a pas eu de dévoilement.
Vous êtes des gens normaux.
On est tous forts.
Vous êtes des gens normaux.
Des chameaux de
qu'Hachem aime. Je ne sais pas, des gnomes. Vous êtes des gens normaux. Normaux. Qu'Hachem laisse dans la normalité du monde, c'est-à-dire qu'il se cache. Et dans ce cas, au courant, il a réussi. Pour avoir que tu es ici. Tu n'es pas au Club Med. Heureusement qu'Hachem ne s'est pas dévoilé. Sinon, tout le mérite que tu as aujourd'hui, tu n'aurais pas. Quand Hachem se dévoile, tu n'as aucun mérite. Zéro. Minus. Le fait de ne pas avoir choisi le mal, combien ça vaut? C'est presque impossible de choisir le mal. Une aide du ciel. Ok, ce n'est pas un dévoilement clair, c'est une aide du ciel. En deux mots, c'est marqué les Fum Sarah Agra, d'après la souffrance, ainsi est le mérite. Plus on souffre pour faire une mitzvah, plus le choix est difficile, plus on a du mérite. À qui je viens d'écrire maintenant? Quelqu'un? Qu'est-ce qu'il m'a posé comme question? Ah ouais. Et au travail, il a le choix. Et au travail. Et il y a une dame mariée dans la chambre à côté. Maintenant, lui, elle n'est pas de sa noix, elle n'est pas de truc, et il fait très attention à ses yeux, puis ça lui fait de l'effet, quoi. Heureusement, il n'est pas dans la même chambre. Maintenant, dans cette chambre-là, il y a une autre femme qui est son responsable, qui va partir en congé maternité. Et elle lui pose la question maintenant, ses responsables aimeraient que lui remplace la femme, donc il est dans le même bureau avec elle. S'il refuse, alors on lui a dit qu'il aurait une responsable qui lui fera l'enfer. S'il accepte, il se met en situation de nissayon, d'épreuve avec cette femme mariée. Je lui dis, mais c'est extraordinaire, c'est un grand cadeau. Mieux vaut 1 million de fois être dans l'enfer ici pour ne pas avoir l'enfer là-bas. Donc tu restes à ta place, tu as les responsables qui te feront l'enfer, et le mérite que tu as maintenant de cet enfer que tu supportes là, pour ne pas faire une avéra, Rashi, dans Traité Kiddushin, page 39, il dit, quelqu'un qui souffre pour ne pas transgresser une avéra, c'est le plus grand mérite qu'on puisse avoir, plus que toutes les mitzvot. La plus grande mitzvah qu'on puisse avoir, c'est ne pas faire un péché. Et pour ne pas faire ce péché-là, on doit souffrir. En fonction des souffrances. En fonction des souffrances. Mais plus la souffrance elle est grande, plus le mérite est grand. Donc lui, maintenant, il a l'occasion extraordinaire de servir Hachem, de ne pas faire une avéra, quitte à souffrir énormément. Énorme. C'est un mérite. Si maintenant la vie est pépère, tu fais des mitzvot facilement, alors c'est bien, tu as des mitzvot. Mais le mérite aussi, il est pépère. Des fois, les tzadikim, on voit qu'il y a des tzadikim qui souffrent. Pourquoi ? Quelque part, ils veulent, ou Hachem, par rapport à sa neshama, veut. Mais si Hachem veut, c'est certain qu'eux aussi sont d'accord avec Hachem au niveau de leur neshama. Ils veulent souffrir pour servir Hachem plus dans la difficulté. Parce que c'est comme c'est ça tout notre mérite. Je vous ai fait le coup des coquelicots, je vais pas leur faire 40 000 fois, d'accord ? Les coquelicots, tu connais les coquelicots ? Voilà. Quand quelqu'un est amoureux de sa fiancée, il va chercher les coquelicots, quitte à se déchirer les habits, souffrir, mais il est heureux. Il a souffert. En fonction de la souffrance, ainsi est le mérite. Donc, quelqu'un maintenant qui a des dévoilements d'Hachem et qui, grâce à ça, se rapproche, c'est pas quelque chose qui est méritoire. Ça nous ferait plaisir, mais parce qu'on veut déjà, on veut rendre la difficulté plus facile. Mais c'est un tort, parce qu'Hachem nous a mis dans la difficulté parce qu'on est, capable de pouvoir la surmonter. Le Rav Yonatan Heibschitz. Un des grandes générations il y a 300 ans. Rabbi Yonatan Heibschitz. Très grand commentateur, très grand posek, qui fait plusieurs livres, qui sont des, bases, des livres de base de l'Halakha. Il avait un fils très très réussi, comme lui. Très très, très extrêmement... Alors, il y a avait beaucoup de discussions, avec des disputes avec les curés, avec les seigneurs de son royaume où il était. Et toujours il y avait des réparties. Une fois, le seigneur lui a dit, je vais faire un décret, mettre tous les juifs dehors, hors du... Mais j'ai avec toi un pari. Je vais sortir, je vais partir à la chasse, et je reviens dans la ville après ma chasse. Maintenant, il y a deux options. Ou je rentre par le sud de la ville, ou par le nord de la ville. Il y a deux entrées à la ville. Tu m'écris sur un papier par quelle entrée je vais rentrer. Si tu as raison, j'annule mon décret. Sinon, tous les juifs dehors. Il n'y a aucun problème. Il prend le papier, il écrit la réponse, il donne, tac, au roi. Bon, le roi part à la chasse. Il revient. Il se dit gauche, sud, nord. Nord, sud, sud, nord. Enfin, il se dit, je vais la voir. Il dit à ses soldats, casser le mur. Il rentre par l'est. Il casse le mur et rentre dans la ville. Il ouvre le papier, Mishnah dans Sanhedrin, Meler, Poretz, Gader, Venirnas. Le roi casse la barrière et rentre. Voilà. Une autre fois, il lui a dit, comment arriver à ce chiffre-là ? Puis comment arriver à ce chiffre-là ? Il a dit, j'exige de toi que tu m'écrives maintenant jusqu'à aujourd'hui midi. Ah, ils ont une discussion sur l'éternité d'Israël. Et le Rav lui dit, voilà, nous on a une preuve comme quoi on a la vérité, parce qu'on a un peuple éternel. Ça fait 3400 ans, à l'époque c'est 3100 années que le peuple d'Israël survit. Et c'est comme ça, ok, alors tu as jusqu'à midi aujourd'hui pour m'écrire, 3100 fois, le peuple d'Israël vivra pour l'éternité. Hier, il lui restait 2 heures. Il a pris un petit papier, j'ai le papier à la maison, où il écrit une lettre au centre, Am Israël, c'est pas Aïn, après Am, etc. Et il met les lettres, et tu peux lire, tu as un papier comme ça avec beaucoup de lettres, et tu peux lire depuis la lettre du centre, tu peux lire Am Israël, Chavek Aïm, l'Olam Vaed, quelques milliers de fois. Bon, c'est un esprit génial pour faire une chose pareille. Il avait un fils, aussi génial que lui, 18 ans, il veut aller à Londres. Bon, tu vas aller à Londres pour les vacances. 2 mois, bon, vas-y, reviens. Il va à Londres. Il est à Londres, il commence à faire un peu de business. Il achète une pomme à 1 sou, à un mile, il revend à 2 miles, à 2 pennies. Il achète maintenant, avec 2 pennies, il achète 2 pommes, il les frotte, et bon, il vend les 2 à 4 pennies, 4 pennies, etc. Lentement, il fait de l'argent. Au bout de 2 mois, il a une lettre à son père. Écoute, papa, je reste encore 1 ou 2 mois. Je fais un peu de business, je reviens très bientôt. En 2 mois, il devient déjà bien. Il reste encore un peu. En 2-3 ans, il devient millionnaire. Il s'achète le titre de Lord. Lord Wolf, il a changé son nom, Wolf. Lord Wolf. Et puis, avec l'argent, il oublie qui il est. Et lentement, plus de prière, plus de filine, cacheroute bancale, et les filles, les anglaises, parce qu'il n'y a pas beaucoup de juifs là-bas, et il part en cacahuète. Son père intendant est décédé, et un jour il dort, et il voit son père qui lui en rêve et dit: t'as pas honte? Tu sais quelle honte tu me fais ici dans la Maba? Ou tu fais tchouva, ou je t'étrangle. Il se réveille comme ça. Quel cauchemar. Il vérifie si Yom Kippour. Moi, j'aime pas ce genre de... J'en rêve, il se fait un thé. Il se fait un thé. Ouais, ça va mieux, je vais dormir. Tu crois que c'est un cauchemar? C'est pas un cauchemar, mon cher ami. Ou tu fais tchouva immédiatement, c'est Kippour aujourd'hui, ou je t'étrangle, t'as compris? Il se réveille de nouveau, terrorisé. Il a tourné en rond dans sa maison. Bon, c'est quoi cette histoire-là? Bon, c'est pas... Allez, rododo. Je vois que t'as pas compris, hein. Et tout d'un coup, son père commence à l'étrangler. Il se réveille hors du lit, et il sent toute la gorge qui lui fait mal. Il a compris, c'est pas un rêve. Il a fait tchouva, t'es là qui pour le lendemain à la synagogue, il a pleuré, tchouva total. Bon! Mais qui est le fils de Rabbi Yehuda Leibshitz? Pour avoir un mérite pareil. Lui, il a quoi le mérite, le fils? En tant que... En tant juste un pocher, c'est rien. Un nul. Le mérite de son père a fait qu'il a pu traverser tous ces mondes depuis Olamaba pour aller le réveiller trois fois. Mais c'est pas là, c'est pas des mérites que nous avons d'avoir des parents pareils. Et nous ne voulons pas. Parce que nous, on va faire tchouva par nous-mêmes. Pas être réveillé par des cauchemars pareils. Mais ça arrive, c'est vrai. Pour les gens faibles. Qu'Hachem, pour une certaine raison, veut sauver. C'est vrai que d'autres, ils laissent tomber. Il faut que ces gens-là qui ont droit à un guilou et à un dévoilement pareil ont un mérite. Mérite d'une mitra qu'ils ont fait dans leur passé, ou mérite des ancêtres. Quelle heure est-il encore ça? Je vous raconte une très belle histoire, par exemple.
C'est pourquoi il y en a qui ont le mérite de faire tchouva tout seul et d'autres non? C'est-à-dire, il y en a qui ont le rêve, oui, ok. Il y en a qui ont le mérite de faire tchouva tout seul, il y en a qui l'ont pas.
Le mérite de la tchouva, d'abord, celui qui n'est pas aidé par un dévoilement pareil, il est aidé par Hachem, pas de son aussi ostensible, donc il devra se battre. Ce sera beaucoup plus dur. Et cette bataille qu'il a contre l'entourage, contre le Yetzer Hara, ça sera son mérite. Mais c'est vrai qu'il est aidé. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Lui, il a réussi cette dinde dans Olamaba, du coup, il passe dans le clan Olamaba, de la vérité, il quitte le monde du mensonge pour le monde de vérité. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il faut un mérite pour cela. Quel mérite il a? Alors, le Stapler, il écrit que deux sortes de mérites, ou les deux. Ou que lui-même a fait des mitzvot dans sa jeunesse. Tu verras que beaucoup de Baalei Tshuva sont des gens qui ont souffert dans leur jeunesse. Et la souffrance, c'est un mérite, comme j'expliquais maintenant. Ou bien ils ont fait des mitzvot tout simplement. Tu verras, c'est des gens qui ont un bon cœur, des gens qui sont bons. Et ils méritent de faire Tshuva. Ou bien, mérite des ancêtres. Qui, pour raison X, Y, Z, j'imagine qu'ils ont un mérite déjà, les descendants, ce descendant-là des ancêtres, un certain mérite. Pourquoi? On voit que parmi la centaine de descendants de l'ancêtre qui est un grand sadique, c'est lui qui était choisi, et pas les autres. Pourquoi lui et pas les autres? Alors aussi, il faut dire que c'est associé à cela, que lui aussi, il a un certain mérite. Ce mérite qu'il a, le descendant, plus le mérite de l'ancêtre, ça fait ensemble que Hachem l'aide à faire tchouva. Si c'est, comme je dis, quelqu'un qui est suffisamment fort, ce sera une tchouva difficile, avec des efforts, avec pas qu'il y ait un dévoilement d'Hachem, je suis là, d'accord? Et donc, très méritante. Une histoire de ce genre-là. Un homme a fait son alia après la Shoah. Il quitte la Hongrie, je ne sais pas où. Il arrive, il a 18 ans. Et à l'époque en Israël, c'est très peu de religieux, un grand mouvement socialiste anti-religieux. Bon, il est complètement non religieux. Un lourd, c'est Kippour. À Kippour, hélas, encore à l'époque, hélas, d'après ce qu'il disait lui, 50% des restaurants étaient fermés. Et lui voulait absolument manger, Kippour, mais moi je mangeais. On est allé manger chez les Arabes. Bon, il mange son plat taref. Donc il voit une vision, son père décédé, en face de lui, tenant un enfant par la main. Il dit: mon fils, à Kippour aujourd'hui, tu manges? Et la vision qui disparaît. Histoire authentique. Il était bien sûr retourné par cela. Il dit: il faut que je parle à un rabbin. Il se renseigne, il apprend qu'il y a le Chazonish à Bnei Brak. Il voit le Chazonish. Et il raconte son histoire. Le Chazonish réfléchit comme ça, il dit... Durant la guerre, ton père était dans la Chevra Kadisha, s'occupait d'enterrer les morts. Et un jour, on a tapé à la porte. On a dit qu'il y avait un enfant qui était mort dans le village voisin et qu'il fallait qu'il vienne l'enterrer. C'est extrêmement dangereux de sortir, il y a les nazis partout. Ils ont attrapé un juif à l'extérieur, c'était la mort assurée. C'était un jour d'hiver avec une tempête terrible. Ton père était déjà vieux, il dit « je ne peux pas y aller ». Toi, tu t'es proposé. Tu es parti dans la forêt, tout seul, il neigeait. Tu es en danger de mort. Tu as pris le petit enfant, tu l'as enterré et tu es revenu. Par le mérite de cette mitzvah que tu as fait, ton père est venu maintenant au Olam Haba avec le petit enfant qui tenait, c'est celui que tu as enterré. C'est la mitzvah, pour te montrer que c'est grâce à la mitzvah qu'il est venu. Et ça fait ce dévoilement pour que tu fasses tshuva. Donc, ça, c'est un cas. On voit une mitzvah que quelqu'un a fait. L'aider à faire tchouva. Mais d'habitude, on n'a pas ce genre de choses. La mitzvah qu'on a fait, on ne la voit pas. Hachem vient de façon beaucoup plus cachée et nous aide à faire tchouva. Mais on voit aujourd'hui, tu vois que les millions qui font tchouva aujourd'hui, c'est grâce à quoi? J'imagine, c'est beaucoup grâce aux souffrances du peuple juif, notamment de la Shoah. Il se peut que nous sommes des Gilgulim, des réincarnations de ceux qui sont morts et qui ont souffert dans la Shoah. Et grâce à ça, on fait tchouva aujourd'hui. Il n'y a rien sans rien. Hachem, que grâce à la tchouva, Hachem nous amène à Mashiach Berachamim. Amen, Kenératso.